Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième séance du séminaire Flaubert consacré au thème de la famille. Alors, je précise que les enregistrements des communications de la dernière fois, Jean-François Louette et Biagio Magoda, sont désormais en ligne, que vous pourrez les retrouver sur le site de l'ITEM. Voilà, et je mettrai sans doute la semaine prochaine en ligne l'enregistrement d'aujourd'hui. Alors, nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui Delphine Jaillot, qui enseigne au département de langue et littérature française de l'université Eötvös-Loránd à Budapest, ainsi qu'au département de traductologie. Elle est membre du groupe Flaubert de l'ITEM CNRS et ses travaux de recherche portent principalement sur Flaubert, le bovarisme, les rapports entre littérature et psychanalyse. Elle a beaucoup travaillé sur l'idiot de la famille, ce qui fait le lien avec la séance de la dernière fois où est intervenu Jean-François Louette. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous signaler l'apparition toute récente des actes du colloque de Mons, édité par Vincent de Corré-Bitter, pardon, aux éditions du CEP, sur Sartre, lecteur de Flaubert et Baudelaire. Où l'on trouve donc un article de Delphine Jaillot sur la lecture de Madame Bovary par Sartre et un article de Jean-François Louette intitulé Le sursis, notre éducation sentimentale, point d'interrogation. Parmi les publications récentes de Delphine Jaillot, on peut citer l'article L'idiot de la famille, l'impossible projet dans Flaubert et le moment théorique, sous la direction d'Anne Hirschberg-Pierrot et Pierre-Marc Debiasi, paru aux éditions du CNRS en 2021. Et dans le droit fil de la communication de Biagio Magoda, qui a évoqué l'expérience de parentalité de Bouvard et Pécuchet la dernière fois, elle va nous parler aujourd'hui de la place de l'enfant chez Flaubert. Et je lui laisse donc la parole.
Merci, merci beaucoup Juliette. Donc, je vais vous parler de l'enfant dans deux œuvres, Madame Bovary et l'éducation sentimentale. Pour commencer, je voudrais vous rappeler que l'enfant, chez Flaubert, en tout cas dans les deux œuvres qui vont nous occuper, l'enfant, ça vomit, ça tousse, ça bave, ça pleure, ça a les mains sales, ça a éventuellement le bout des oreilles sales, c'est quelque chose de rouge et de jaune qui ne sent pas bon et qui vagit, et quand ça ne meurt pas, ça finit à l'usine. Vous aurez peut-être reconnu les principaux personnages d'enfants que l'on trouve dans Madame Bovary et dans l'éducation sentimentale. Je veux parler de la petite Berthe qui vomit, entre autres, hein, sur la collerette de la robe de Nankin de sa mère. Elle bave, elle tousse, elle a le bout des oreilles sales et elle finit à l'usine. Un autre enfant qui tousse, c'est le petit Eugène, le fils Arnoux, qui attrape successivement les oreillons et le croup, mais qui n'en meurt pas. Celui qui meurt, en revanche, c'est le petit de Frédéric Moreau, qui est aussi l'enfant de Rosanette. Que font-ils d'autre? Presque rien, justement. Ils ne se manifestent a priori que par des débordements de corps qui seraient comme l'écume de leur présence au monde. En tout état de cause, on peut remarquer que dans ce 19e siècle, qui pense l'enfant, qui le pense dans son individualisation, dans son individuation, ces enfants-là, les enfants des romans de Flaubert, ne s'individualisent pas. Dans ce 19e siècle littéraire qui exalte le culte de l'enfant, qui embrasse la cause des enfants et qui propose une multitude d'enfants-personnages, je cite pêle-mêle Pierrette, Gwynplaine, Cosette, Gavroche, Jeanlin, Muche, Marjolin, Cadine, ceux de Flaubert font un peu pâle figure. On pourrait même dire qu'il n'y a pas de type d'enfant à proprement parler, tout au moins dans les deux romans, hein, qui nous occupent. Pas de type d'enfant et pas de place qui leur soit clairement assignée, sinon celle d'être l'enfant de leurs parents. Et plutôt l'enfant d'un des deux parents, le père ou la mère, mais jamais les deux en même temps. Ce qui est une première manière de porter atteinte à la famille, hein. La famille conjugale, comme l'appelle Durkheim, puisque c'est celle-là qu'on trouve principalement chez Flaubert, c'est-à-dire famille avec deux parents et enfants, telle que devrait l'être donc la famille Bovary, la famille Arnoux, ou encore la famille Homais, mais précisément la famille Homais est une vraie famille. On verra que c'est justement le contre-exemple. C'est ce qui serait alors non pas une typologie de personnages d'enfants, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler une topologie, c'est-à-dire une dynamique mouvante, rassemblant les acteurs d'une relation problématique, mais qui nous renseignerait sur la manière dont Flaubert pense, ou plutôt présente, la difficulté à penser l'enfant. Alors, je vais dans un premier temps, ce sera l'objet de ma première partie, faire un bref inventaire des enfants présents dans nos deux œuvres, afin de mieux cerner la place qu'ils sont à même d'occuper, voire le peu de place ou l'absence de place, pour mieux montrer dans une deuxième partie qu'ils sont pensés en relation à un parent désirant ou désiré, impliqué en tout cas dans un désir, ce qui nous offre une galerie de portraits, non pas d'enfants, mais de parents avec enfants, et parents au singulier. Ce sera ma deuxième partie, portrait de parents au singulier avec enfants. Avec enfants, pardon. Enfin, dans une troisième partie, je vous proposerai quelques études de cas pour montrer finalement que s'il est une place de l'enfant, c'est une place qui se trouve dans l'espace psychique du parent, une place dès lors souvent problématique ou conflictuelle, qui a à voir avec quelques impensables, qu'on pourrait appeler aussi des tabous, celui de la sexualité, celui de la mort, ou encore celui de la conjonction entre le désir sexuel et la génération ou la procréation. Alors, première partie, qui sont les enfants, quels sont ces enfants et quels sont dans les deux romans ceux que je dois considérer comme des enfants. Alors, un mot sur la classe d'âge tout d'abord, puisqu'il y a deux catégories limites que sont les nourrissons et les jeunes gens. Alors, les nourrissons, je n'en parlerai pas en tant que tels. Je laisse d'ailleurs à Lucie Nizard le soin de le faire, puisqu'il me semble qu'elle proposera bientôt une communication à ce propos. Alors, je les inclus néanmoins dès lors qu'ils sont amenés à ne pas rester des nourrissons, mais à évoluer, hein, comme par exemple la petite Berthe, ou alors je les évoque dès lors qu'ils sont bien l'enfant d'un parent désirant ou d'un parent qui a une consistance psychologique comme l'enfant de Rosanette. Mais je ne m'intéresserai pas aux jeunes gens des romans, par exemple Justin ou encore Louise Roch qui est déjà une demoiselle, et il me semble que chez Flaubert il y a peut-être quelque chose autour de l'âge de 12 ans qui serait finalement la limite à partir de laquelle le jeune enfant-fille devient une demoiselle. C'est également l'âge hein, qu'a Emma Bovary quand elle entre au couvent, quand son père l'amène au couvent. Et l'âge de Louise Roch est précisé, précisément aussi celui-là au début du roman, l'âge de 12 ans. Donc, âge où les petites filles quitte définitivement l'enfance. Ce sera le cas de Marthe, mais la petite Marthe, Marthe Arnoux, qui devient une demoiselle, est bien néanmoins une petite fille au début du roman. Alors, pour faire un inventaire des enfants, on pourrait commencer par les enfants Homais, qui sont finalement ceux qui ont l'assise symbolique la plus forte. Il bénéficie d'un patronyme tout à fait solide, Homais, et d'un prénom qui ne l'est pas moins, envisagé selon un système que M. Homais est même capable d'exposer. En toute fin de liste, il y aurait l'enfant de Frédéric et de Rosanette qui, lui, n'a pas de nom, pas de patronyme, puisque Frédéric ne le reconnaît pas en tant que père. Peut-être faudrait-il dire d'ailleurs que Frédéric est le géniteur de cet enfant plus que son père. Tandis que Rosanette est bien la mère, qu'elle souhaite être sa mère, et que cet enfant donc, n'a pas de nom ni de prénom, il meurt très vite, non nommé, renvoyé finalement à un pur corps pour la mort. On pourrait dire qu'il incarne un excès de réel qu'aucun symbolique n'est venu borner, donc vraiment l'antithèse de ce que sont les enfants Homais qui, eux, circulent dans un excès de symbolique. Aux deux extrémités, donc, la famille Homais et la non-famille autour du petit enfant dont Rosanette souhaiterait pourtant qu'il puisse être le lien indéfectible qui l'unirait à Frédéric, qui lui permettrait de faire famille avec Frédéric. Nous le garderons, le « nous » est particulièrement émouvant quand l'enfant meurt, qui est une manière de formuler le vœu d'une impossible famille qui s'était pourtant pour un très bref instant constituée. Entre ces deux extrémités, excès de symbolique, excès de réel, les autres enfants, Berthe, la petite Berthe, qui est le plus souvent appelée Berthe ou la petite Berthe, et pas Berthe Bovary, Marthe et Eugène, qui donc bénéficient d'un prénom qui est parfois mentionné, mais qui ne sont pas non plus les petits Arnoux. Alors, je reviens, avant de poursuivre, il faut faire une petite pause sur les enfants Homais, puisque ce sont eux qui sont les seuls à avoir véritablement une place stable dès le départ et à la garder. Alors, comme je l'ai dit, ils font partie d'un système, un système familial avec un père et une mère, et ils ont même une certaine autonomie par rapport à leurs parents, une forme d'individuation, même si elle est ténue. Je rappelle que dans les avant-textes, il y avait une caractérologie qui s'esquissait, que Flaubert n'a pas maintenue, caractérologie dans laquelle on trouvait un portrait moral de chacun des enfants, ce dont aucun autre enfant dans ces deux œuvres ne bénéficie, bien évidemment. Alors, je rappelle cette citation bien connue qui concerne le système Homais, donc, puisqu'il avait en prédilection tous ceux qui rappelaient un grand homme, un fait illustre ou une conception généreuse, et c'est dans ce système-là qu'il avait baptisé ses quatre enfants. Ainsi, Napoléon représentait la gloire et Franklin la liberté. Irma, peut-être, était une concession au romantisme, mais Athalie, un hommage au plus immortel chef-d'œuvre de la scène française. Alors, il est intéressant de retrouver dans ce passage bien connu l'ambiguïté qui sous-tend les paroles d'Emma. Quand il déclare que Napoléon représente la gloire, que dit-il ? Est-ce le prénom Napoléon qui représente la gloire ? Ou son fils Napoléon, qui parce qu'il s'appelle ainsi, représente la gloire. Le nom Napoléon est ici, me semble-t-il, ce que les linguistes appellent en mention, il figure en mention, mais en l'absence de modalisation autonymique, comme l'italique par exemple, le doute est permis. Et finalement, on peut se demander si ce n'est pas l'effet produit par le système Homais, obtenir des enfants qui représentent une idée, une abstraction, ce que le prénom d'ordinaire ne permet pas. On pourrait presque dire que les enfants Homais sont devenus des allégories. Alors cette nomination homésienne soumet les enfants homais à un excès de symbolique qui, d'une certaine manière, les protège de toute projection imaginaire, et on ne rêve pas pour eux de telle ou telle place, ils l'ont déjà. Ils l'ont dès le départ et ils l'incarnent même. Et cet excès de symbolique les protège également, peut-on dire, de tout débordement du réel qui s'exprimerait par le corps. On peut remarquer, par exemple, que les enfants homais ne versent pas de larmes, contrairement aux autres enfants. La petite Marthe et la petite Berthe ont sans cesse des larmes, et les enfants homais n'ont pas de larmes, ils sont même insensibles. Hein, c'est ce qui est mentionné lors du départ de Léon. Ils sont incapables de verser des larmes. D'une certaine manière, on pourrait donc dire que le système fonctionne très bien. Et si l'on en croit les dernières pages du roman, où s'étale florissante et hilare la famille du pharmacien, que tout au monde contribuait à satisfaire, je cite, « Napoléon l'aidait au laboratoire, Athalie lui brodait un bonnet grec, Irma découpait des rondelles de papier pour couvrir les confitures, et Franklin récitait tout d'une haleine la table de Pythagore. » Alors, évidemment, face aux enfants homais, les autres personnages d'enfants que j'ai cités précédemment sont des figures bien, bien moins achevées, elles ne sont qu'esquissées, parfois tremblantes ou incertaines. Ultime différence encore entre les petits homais et les autres enfants, c'est que ces derniers, les autres enfants, ont des parents qui sont des personnages, à un moment ou à un autre, désirants. Ce que les parents homais ne sont pas. Alors, pourquoi je dis ça? Après tout, qu'en sait-on? Mais il me semble que Monsieur Homais ne va pas à Rouen pour retrouver sa maîtresse, hein, contrairement à Emma, et que Madame Homais est, par les deux personnages qui la côtoient, c'est-à-dire Justin et Léon, suspectée de n'être pas vraiment une femme, mais bien juste une mère. C'est le sens de l'interrogation de Justin quand il aperçoit tous ses vêtements de femme, les jupons, les fichus, les collerettes, quand il aide Félicité et qu'il demande à quoi cela sert. Félicité lui dit « Mais enfin, tu ne connais rien, comme si ta patronne, Madame Homais, n'emportait pas de pareil. » Ah bien oui, Madame Homais, est-ce que c'est une dame comme Madame? » Voilà la phrase de Justin. Et si on remarque ce que peut dire Léon, c'est tout à fait explicite, puisque de la part de Léon, voilà ce qui est dit, Léon, il n'avait jamais songé, quoiqu'elle eût 30 ans, Madame Homais, qu'il en eût 20, qu'il couchasse porte à porte et qu'il lui parlât chaque jour, qu'elle pût être une femme pour quelqu'un, ni qu'elle possédât de son sexe autre chose que la robe. Alors, on le voit, la fonction parentale chez les Homais semble n'être pas compliquée d'un quelconque désir individuel, amoureux ou sexuel, que celui-ci soit éprouvé ou suscité. Alors, j'en viens maintenant justement aux autres enfants pour lesquels il n'y a pas à les considérer de manière individuelle, mais bien à les considérer comme je l'ai annoncé précédemment pour cette deuxième partie, qu'il s'agit de portraits de parents avec enfants. Et donc, je rappelle que le parent, j'utilise le mot parent au singulier, portrait au pluriel de parents avec enfants. Et pour commencer donc cette galerie de portraits, il y en aura trois principalement. Le premier, le plus évident, qui pourrait s'appeler la Vierge à l'enfant, mais que le récit se plaît à compliquer, si bien qu'il faudrait peut-être l'appeler plutôt la Vierge aux deux enfants. Et m'accorder également que ce tableau n'est pas donné une fois pour toutes, mais qu'il se construit, se déconstruit, s'améliore, et se reconstruit au cours du roman, avant d'être fixée une fois pour toutes dans l'avant-dernier chapitre de l'éducation sentimentale. La Vierge à l'enfant, la Vierge aux deux enfants, c'est de Marie Arnoux qu'il s'agit, qui apparaît à Frédéric, je peux revenir ici sur l'apparition liminaire, pour préciser que cette première apparition, et on l'oublie parfois, a été préparée par la rencontre avec Arnoux, puis qu'elle a été complétée par l'arrivée de la petite fille, dont le lecteur est Frédéric, reconstitue après coup qu'ils sont étroitement liés à cette belle femme qui se trouve immédiatement transformée ainsi en épouse et en mère. Si bien que Madame Arnoux est tout de suite immédiatement identifiée à l'image d'une épouse et d'une mère, et on est en droit de se demander si dans le désir très fort de Frédéric, que Frédéric en conçoit à ce moment-là, sa qualité de mère et de femme d'un autre n'est pas impliquée. Alors, c'est presque toujours accompagné de son enfant, Marthe, puis de ses enfants, Marthe et Eugène, qu'elle apparaît comme image pour le lecteur et qu'elle sera ainsi fixée définitivement, pour toujours, dans l'imaginaire de Frédéric et du lecteur, par cette formule à la fin du roman. Je n'imaginais, Frédéric, rien au-delà. C'était Madame Arnoux, telle que vous étiez, avec ses deux enfants, tendre, sérieuse, belle à éblouir et si bonne. Donc cette image, Madame Arnoux, avec ses deux enfants, circule dans le roman à de nombreuses reprises. Il y a une autre citation. Elle se tenait debout sur le seuil de sa chambre avec ses deux enfants à ses côtés. Donc cette première apparition, elle va être complétée comme ça. Elle n'est plus seule. Elle est Madame Arnoux avec ses deux enfants. Alors cette image de la mère à l'enfant, de la Vierge à l'enfant, se métamorphose donc en image de la Vierge aux deux enfants, ce qui la préserve de toute dégradation. Évidemment, c'est métaphorique, elle reste vierge pour Frédéric, et elle préserve Frédéric également de l'effroi d'un inceste qu'il ne reconnaît pas comme tel, hein, puisqu'il prouve comme l'effroi d'un inceste, mais enfin, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans la relation de Frédéric à Madame Arnoux. Autre chose concernant ce portrait de Vierge à l'enfant, les enfants sont le support du désir, et on peut s'arrêter un instant sur cette scène dans la voiture qui ramène les Arnoux et Frédéric de la maison de campagne de Saint-Cloud jusqu'à Paris, au cours de laquelle un lien nouveau s'est établi entre Frédéric et Marie Arnoux, avec le petit corps de Marthe, de la petite fille, qui est allongé sur les deux personnages. Je cite « La voiture roulait, et les chèvrefeuilles et les seringas débordaient les clôtures des jardins, envoyaient dans la nuit des bouffées d'odeurs amollissantes. Les plis nombreux de sa robe couvraient ses pieds. Il lui semblait communiquer avec toute sa personne par ce corps d'enfant étendu entre eux. Il se pencha vers la petite fille et, écartant ses jolis cheveux bruns, la baisa au front, doucement. « Vous êtes bon, » dit Madame Arnoux. « Pourquoi ?» Parce que vous aimez les enfants, pas tous. La réponse de Frédéric est prophétique, pas tous en effet. On verra que, en tout cas quand il s'agit du sien, il aura du mal à l'aimer. Ce baiser à l'enfant est évidemment un baiser à Madame Arnoux, et la phrase de Madame Arnoux s'applique tout autant à elle, « Vous êtes bon. » Vous êtes bon avec les enfants, mais vous êtes bon avec moi quand l'autre, Arnoux, se comporte comme un goujat. Alors, Marie Arnoux n'est pas seule à incarner le type de la Madone avec enfant, enfant fétichisé, attribut maternel, cette Madone susceptible de susciter le désir des hommes, des jeunes hommes. Il s'agit d'un thème littéraire qui est déjà présent dans la littérature romantique et bien sûr, on le trouve chez Goethe. On retrouve le même topos finalement dans Madame Bovary, plus discret mais néanmoins présent, entre Léon et Emma. Dans un avant-texte, Flaubert écrit que, par rapport à Emma, elle a sa fille très mêlée à sa première passion, c'est-à-dire avec Léon, et que Léopold, il s'appelle encore Léopold, Léopold Léon aime. La petite Berthe est pour Léon, comme les Marthe pour Frédéric, un prolongement de la femme aimée et pour lequel, à l'occasion, le contact physique ou le baiser vaut comme substitut à l'étreinte ou au baiser donné à la femme aimée. Quand Léon quitte Yonville pour aller s'établir ailleurs, il veut embrasser Berthe avant de partir. Pauvre enfant, chère petite, embrasser Berthe, ce qui signifie bien sûr embrasser Emma. D'une certaine manière, Léon aime l'enfant, il aime Charles aussi, hein, tout comme Frédéric Moreau aime l'enfant de Marie Arnoux et d'une certaine manière Arnoux également. J'en viens à mon deuxième portrait, qui est cette fois-ci un impossible portrait, que j'ai nommé l'impossible Pietà, mais je ne sais pas, peut-être il y aurait encore un autre nom à lui donner à cet impossible portrait. Nous quittons la Vierge à l'enfant, pour passer à une non-Vierge, à l'enfant, mais à un enfant que nous ne pouvons pas autrement que l'enfant mort, puisqu'il n'a pas de nom, mais il n'a pas toujours été cet enfant mort. Alors, il y a l'impossible portrait de Rosanette et de son enfant, sauf à avoir peint une Mater Dolorosa, mais évidemment, ça n'est pas ce que Pellerin va faire, ni ce qu'il serait capable de faire. Il faut évoquer les trois portraits de Pellerin, les trois tableaux de Pellerin dans l'éducation sentimentale. Le premier tableau est un portrait de femme seule, c'est Rosanette. Le deuxième portrait, même si en effet il s'agit d'un Christ un peu dévoyé, mais enfin le Christ est présent puisqu'il conduit une locomotive à travers une forêt, mais le Christ est seul, il est sans sa mère. Et enfin, troisième tableau, l'enfant mort, mais c'est un enfant seul. L'enfant mort, tout seul, et donc pas le tableau de la Pietà qu'il aurait fallu, qu'il aurait, dont évidemment Rosanette aurait mérité d'une certaine manière. Le portrait de Rosanette seule, on se souvient, c'est le portrait qui se retrouvera chez Frédéric à la toute fin du roman, ce portrait qui intrigue Madame Arnoux et dont il dira, pour mieux s'en débarrasser, c'est une vieille peinture italienne. C'est une vieille peinture italienne, Rosanette en Madone, oui, pourquoi pas, en Madone, mais sans enfant. Dans le deuxième tableau, je l'ai dit, le Christ est seul. Et enfin, ce troisième tableau de Pellerin, qui est le tableau de l'enfant mort. Alors, je dois préciser que cela renvoie à une pratique, qui est la pratique du dernier portrait, qui est pour nous difficilement concevable, mais qui est une pratique courante au XIXe siècle. Le XIXe siècle est même l'âge d'or du dernier portrait, que ce soit en peinture ou bien avec un daguerréotype qui est également utilisé. Et donc, à ce titre, les portraits d'enfants morts existent. Alors, dans le traitement de cette scène que Flaubert va détourner, escamoter, On retrouve, bien sûr, on est face à un impensable et même à un irreprésentable que Flaubert va tenter de penser ou de représenter autrement. Alors pour ce tableau, dont ironiquement, évidemment, enfin ironiquement, il ne sait pas que c'est ironique, mais Pellerin dit pas commode, pas commode, Flaubert avait fait des recherches. Et il avait demandé au Goncourt de lui donner des idées d'ouvrages dans lesquels il y aurait une théorie du portrait d'enfant dans la lettre du 13 mars 1869. Les Goncourt lui donnent des idées de portrait d'enfant, mais évidemment des portraits d'enfants vivants. Et c'est ce qu'il mettra dans la bouche de Pellerin et précisément, la seule chose que Pellerin essaie de restituer, et tout ce qu'il va dire va être d'une maladresse coupable, il cherche ce que ça devait être. Alors, ce que ça devait être, on perçoit bien ici toute l'ambiguïté de cette formule. Que veut-il dire ce que ça devait être? Puisque l'enfant est déjà, l'enfant mort est déjà abîmé et la chair est déjà en partie en décomposition. Alors ce que ça devait être, quoi, avant que la chair ne s'abîme, ou bien avant, quand il était vivant, et donc faire le portrait d'un enfant vivant alors qu'il s'agit d'un enfant mort, on voit là qu'il y a une indécence que Flaubert affronte et l'indécence de Pellerin se poursuit bien sûr puisqu'il va proposer des théories esthétiques quand finalement la demande de Rosanette était fondée uniquement au départ sur une motivation mémorielle et puis bien sûr il y a la douleur de la mère qui n'est pas pris en compte. Alors évidemment, la discussion théorique autour de portraits d'enfants et d'enfants morts renvoie à un débat théorique du moment, puisque le portrait d'enfants morts fait injure aux hiérarchies de la peinture en rabaissant les compétences d'un genre, le portrait, qui est l'art des figures animées, à ceux que requiert le genre inférieur qu'est la nature morte, l'art des objets inanimés. Alors en effet, on peut se dire que le seul portrait qu'il aurait été possible de faire, de manière décalée bien sûr, celui d'une Mater Dolorosa ou d'une Pietà, Pellerin échoue à le faire, mais Pellerin échoue toujours à faire tout ce qu'il entreprend, la théorie l'empêche de voir ou de créer. Alors finalement, dans cette scène, tout le monde est toujours en retard ou décalé, puisqu'on a soit l'évocation des portraits d'enfants, mais des portraits d'enfants vivants, ou bien, comble, l'évocation de Madone à l'enfant, c'est ce que Pellerin dira à la toute fin, ce qu'il y a de plus beau, ce sont les Madones de Raphaël, les portraits de mère avec enfant. Et à partir de ce moment-là, comme si c'était la parole absolument insupportable, la parole de trop, Rosanette va quitter la scène. Alors le portrait est escamoté. Il est escamoté dans tous les sens du terme, à la fois par la nécessité dramatique, puisque Pellerin apporte à ce moment-là de l'histoire des nouvelles de la ruine des Arnoux, ce qui relance l'intérêt pour le vieil amour, Madame Arnoux, et condamne Rosanette définitivement à l'oubli. On peut dire d'une certaine manière, Rosanette meurt d'un point de vue de l'action dramatique à ce moment-là, et ce portrait est une manière de liquider et l'enfant et Rosanette, ce semblant de vie maritale et de construction familiale. Rosanette est sortie du jeu amoureux et ce qui reste est un portrait ni fait ni à faire. Je vous cite le portrait. qu'on découvre un peu plus tard. Rosanette, elle, alla chercher le portrait, le rouge, le jaune, le vert et l'indigo s'y heurtaient par taches violentes, en faisaient une chose hideuse, presque dérisoire. Finalement, le portrait est conforme à ce que cet enfant a été pour Frédéric. On se souvient qu'il en dit au départ, première apparition, quelque chose de rouge et de jaune, extrêmement laid et finalement dérisoire. Troisième et dernier portrait, je vais essayer d'être un peu plus rapide, le père que j'ai intitulé « Le père à l'enfant ». Alors, le père à l'enfant, de qui s'agit-il? Eh bien, de Charles. Charles est métamorphosé par la grossesse de sa femme. On se souvient que le mariage avec Emma avait déjà été pour lui l'occasion d'une métamorphose. Et en paraphrasant ce que fut pour lui, pour Charles, hein, le lendemain du mariage, c'est lui plutôt que l'on eût pris pour la Vierge de la veille. On pourrait presque dire de sa paternité, c'est lui plutôt qu'on eût pris pour la mère. Alors, non pas qu'un père ne puisse pas se réjouir, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il est difficile de ne pas interpréter le contraste très fort entre le père exultant de joie, l'idée d'avoir engendré le délectait, quand la future mère ne laisse évidemment rien paraître d'une telle joie et même n'en éprouve pas, juste un étonnement et une volonté de savoir. Alors, il y a évidemment une inversion des rôles traditionnellement impartis, même s'il s'agit pour le mariage comme pour la maternité d'une idée reçue, bien sûr, mais que Flaubert bat en brèche, et bat en brèche cette idée reçue puisque il l'inverse précisément. En tout état de cause, la figure parentale aimante et attentive autour de la petite Berthe, c'est lui qui l'incarne. Elle ne sera jamais démentie, ni à la naissance de l'enfant, ni par la suite. À la naissance de l'enfant, l'amour que Charles éprouve pour cette petite fille redouble l'amour qu'il éprouve pour sa femme. Et on se souvient qu'il veut même nommer sa petite fille du même nom que sa mère. Il voudrait l'appeler Emma. Emma s'y oppose. Alors, il forme des projets pour son enfant, un projet d'éducation. Il rêve l'avenir de son enfant. On peut même dire qu'il bovarise l'avenir de la petite Berthe quand la mère rêve d'une fuite avec son amant au galop de 4 chevaux. J'ai redécouvert ça avec plaisir. Je ne me souvenais pas que ces deux extraits se suivent absolument. La rêverie de Charles sur ce que deviendra Berthe et la rêverie d'Emma alors que Charles vient de s'endormir, la rêverie au galop de 4 chevaux. Alors, je parlais donc, du père à l'enfant. Il y a même ce qu'on pourrait appeler un tableau de père à l'enfant dans la troisième partie au chapitre 6 qui vaut d'être rappelé. Après le dîner, il se promenait seul dans le jardin et il prenait la petite Berthe sur ses genoux et, déployant son journal de médecine, essayait de l'apprendre à lire. L'enfant, qui n'étudiait jamais, ne tardait pas à ouvrir de grands yeux tristes et se mettait à pleurer. Alors il la consolait. Il allait lui chercher de l'eau dans l'arrosoir pour faire des rivières sur le sable ou cassait les branches des troènes pour planter des arbres dans les plates-bandes. Ce qui gâtait un peu le jardin, ce qui gâtait peu le jardin, tout encombré de longues herbes, on devait tant de journées à le thiboudoir. Puis l'enfant avait froid et demandait sa mère. Après la mort d'Emma, le couple Charles-Berthe, puisqu'il s'agit d'un couple, se trouvera renforcé et le souci que Charles prend à l'enfant se poursuit avec encore davantage de pathétique. À mesure que ses affections disparaissaient, ses affections, c'est l'entourage, hein, Charles qui finit par disparaître, il se resserrait plus étroitement à l'amour de son enfant. Elle l'inquiétait cependant, car elle toussait quelquefois et avait des plaques rouges aux pommettes. Si on ne savait pas qui désigne le elle, on pourrait jurer que c'est d'Emma dont il s'agit, parce que cette inquiétude pour la santé de Berthe, jointe à l'amour pour Berthe, rappelle tout à fait ce que Charles éprouve pour Emma, une inquiétude doublée d'une impuissance à comprendre le signe clinique, la toux, les joues rouges ici, ce qui toujours menace de le faire échouer en sa qualité et de père et de médecin, et ici en sa qualité de père et de médecin, comme il échouait face à Emma en sa double qualité d'époux et de médecin. Alors cette ultime image du père à l'enfant, évidemment, est particulièrement intéressante parce que là encore, elle contraste avec le portrait familial des enfants Homais qui suit immédiatement. Je ne vais pas le rappeler, je l'ai déjà lu. Alors j'en viens à ma troisième et dernière partie qui concerne la vie psychique du parent. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Je voudrais rappeler tout d'abord qu'il y a trois enfants, Berthe, Eugène et le petit Frédéric et Rosanette, qui sont des enfants conçus au sein au sein de la diégèse du roman. Alors, ils sont conçus dans l'espace-temps donc du roman, donc conçus au cours du roman, dans le roman, par le roman, et peut-être qu'on peut prendre en compte finalement cette donnée-là pour regarder la manière dont ils sont perçus dans leur trajectoire romanesque. Alors, pour l'anecdote, et je n'en ferai pas davantage de cas, on a pu remarquer que d'un strict point de vue chronologique, la seconde grossesse de Marie Arnoux, qui donne naissance donc au petit Eugène, est tout à fait fantaisiste. Bon, Flaubert n'était pas très fort en arithmétique, souvent il y a ce genre de problème, mais ça pourrait tout à fait aller dans le sens de ce que je souhaite élaborer, qu'il y a finalement une difficulté à concevoir l'enfant qui s'exprime autour de ces trois enfants. Alors, dans l'éducation sentimentale, l'annonce faite par Rosanette de sa grossesse constitue pour Frédéric Moreau véritablement un inconcevable. Je cite, « Cet événement était une calamité qui d'abord ajournait leur rupture et bouleversait tous ses projets. L'idée d'être père, d'ailleurs, lui paraissait grotesque, inadmissible. Pour Emma Bovary, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on le sait, il ne s'agit évidemment pas d'un heureux événement. On a parlé d'un étonnement, bien sûr, et puis de savoir quelle chose c'était que d'être mère. Évidemment, le sentiment maternel ne prend pas et n'a pas pu s'exercer ou s'anticiper avec la préparation du trousseau. Là où je veux en venir, c'est pour dire que l'idée de parentalité est pour l'un comme pour l'autre d'emblée problématique, pour Frédéric comme pour Emma, mais qu'elle n'empêche pas, et peut-être même que c'est ce qu'elle permet, d'autant mieux, c'est-à-dire de concevoir un enfant imaginaire. Et finalement, il y a chez Flaubert et dans ses deux œuvres une figure de prédilection, une figure d'enfant, une figure de prédilection concernant l'enfant qui est l'enfant imaginaire. Pour Frédéric, cet enfant imaginaire épouse en tout point le caractère de ce qui est autre, un enfant d'un autre sexe que le sien, conçu avec une autre femme, pas avec Rosanette, mais bien avec Marie-Arnoux. Et cette rêverie autour de l'enfant imaginaire prend l'allure d'une hallucination. Il voyait là, sur le tapis, devant la cheminée, une petite fille. Elle ressemblait à Madame Arnoux et à lui-même, un peu, brune et blanche, avec des yeux noirs, de très grands sourcils, un ruban rose dans ses cheveux bouclants, oh, comme il l'aurait aimé. Et il lui semblait entendre sa voix, papa, papa. Oh, comme il l'aurait aimé, est entre parenthèses, ce qui ajoute encore au pathétique de cet impossible et de ce regret. Donc la réalité de cette conception imaginaire n'a d'égal que son absence de réalité effective, puisque cette vision hallucinatoire corrige ce qui n'est pas. L'enfant n'est pas celui de Marianne, mais celui de Rosanette. Et ce ne sera pas une fille, mais bien un garçon. L'enfant d'Emma obéit symétriquement, mais exactement à la même dynamique. L'enfant imaginaire qu'elle se résout à former, elle souhaitait un fils, il serait fort et brun, elle l'appellerait Georges, répond bientôt une inadmissible réalité de l'enfant qui vient au monde. Elle accoucha un dimanche vers 6 h au soleil levant. C'est une fille, dit Charles. Elle tourna la tête et s'évanouit. On pourrait presque dire, et ce fut tout en ce qui concerne Emma, puisque là, pour Emma comme pour Frédéric, on s'aperçoit que dès lors que l'enfant paraît, le parent disparaît. Frédéric et Emma s'absentent, l'un par l'hallucination, l'autre par l'évanouissement. Mais chez Emma, cela se poursuivra par une absence totale d'investissement parental. Comme pour mieux abîmer le rêve d'un enfant dûment formé que l'un et l'autre personnage postule, c'est évidemment la laideur ou l'informe qui caractérise l'enfant réel auquel ils vont être confrontés. On reconnaît là le trait flaubertien de l'expression de la vengeance du réel. C'est une chose étrange, pense Emma, comme cet enfant est laide. Quant à Frédéric, je l'ai déjà dit, quand il découvre son enfant, quelque chose d'un rouge jaunâtre, extrêmement ridé, qui sentait mauvais et qui vagissait. Alors, j'accélère un peu, j'en viens à mon dernier point, cette troisième partie qui concerne qui se crée non pas autour d'une rêverie, mais autour d'un rêve, un rêve inscrit dans la séquence dont Madame Arnoux est dans l'éducation sentimentale, l'élément focalisateur, et c'est suffisamment rare pour être mentionné. Alors ici, avec la question du possible adultère de Marie Arnoux, ce n'est pas tant le conflit entre la mère et la femme qui se joue, comme ce qui se jouait pour Emma, qu'ici un autre conflit qui concerne la disjonction entre la sexualité et la maternité, et le désir de la mère, un désir amoureux éventuellement, et la maternité. Alors, il faut pour ça évoquer l'épisode de la maladie du petit Eugène, qui a le croup. Et cet épisode renvoie à un topos de la littérature de la première moitié du XIXe siècle, présent dans Volupté de Sainte-Beuve, dans la vallée Balzac, dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. La maladie de l'enfant de la femme adultère, en pensée ou en acte, est toujours un signe du ciel, un avertissement divin ou bien un châtiment divin. Madame de Rênal considérera que c'est une punition, puisque la passion avec Julien est déjà consommée quand son fils Stanislas tombe malade. Dans l'éducation sentimentale, Marie Arnoux, comme en pleine conscience de ce topos qui circule déjà évidemment, utilise cet argument. Tout à coup, l'idée de Frédéric lui apparut d'une façon nette et inexorable. L'idée de Frédéric, c'est le rendez-vous qu'il lui a donné rue Tronchet. Je ne veux pas m'étendre sur le nom de cette rue, pour nous évidemment est très signifiant. Il l'était vraisemblablement moins au moment où Flaubert écrit, mais enfin, voilà, pour nous, il l'est. Le nom ne trompe pas, finalement, Madame Arnoux ne se trompe pas. Elle sait en quoi consiste l'idée de Frédéric qui a prévu un petit appartement pour le rendez-vous. C'était un avertissement de la Providence, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, n'avait pas voulu la punir tout à fait. Quelle expiation plus tard, si elle persévérait dans cet amour? Sans doute, on insulterait son fils à cause d'elle. Et Madame Arnoux l'aperçut jeune homme, blessé dans une rencontre, rapporté sur un brancard, mourant. D'un bond, elle se précipita sur la petite chaise et de toutes ses forces, lançant son âme dans les hauteurs, elle offrit à Dieu, comme un holocauste, le sacrifice de sa première passion, de sa seule faiblesse. Alors, on retrouve bien sûr ici le conflit entre la femme désirante, capable de sexualité, et la mère. Mais il y a une autre composante, et ce sera vraiment le dernier point que j'aborderai, puisque l'invention flaubertienne consiste précisément ici, grâce à un récit de rêve, à intérioriser la culpabilité. La culpabilité ne se pose plus uniquement en termes de conflit moral, mais bien en termes de conflit psychique. Très brièvement, je vous lis le rêve. Elle avait rêvé la nuit précédente qu'elle est sur le trottoir de la rue Tronchet depuis longtemps. Elle y attendait quelque chose d'indéterminé, de considérable néanmoins, et sans savoir pourquoi elle avait peur d'être aperçue. Mais un maudit petit chien, acharné contre elle, mordillait le bas de sa robe. Il revenait obstinément et aboyait toujours plus fort. Madame Arnoux se réveilla. Cela partait de la chambre de son fils. Alors, le rêve travaille la question du désir féminin, l'attente sur le trottoir de la rue Tronchet, la jouissance féminine, quelque chose d'indéterminé, de considérable, d'indéterminé, de considérable. Flaubert utilise les mêmes mots pour Emma après la baisade avec Rodolphe. Et les aboiements du petit chien qui renvoient bien sûr ici à la menace. Flaubert avait travaillé à partir de données scientifiques et trouvé que dans le cas du croup, le bruit produit par la toux ressemblait à l'aboiement du chien. Le rêveur, Madame Arnoux, intègre donc ici en cohérence avec son rêve la toux de son enfant qui a été métamorphosée en aboiement du chien, qui a été retravaillée dans le contexte du rêve en aboiement du chien. Alors on pourrait tout à fait inscrire ce rêve de Flaubert dans la Traumdeutung de Freud et ajouter à l'exemple du père, ne vois-tu pas que je brûle, hein, mère, n'entends-tu pas que j'étouffe, mère, n'entends-tu pas que je meurs. Ce rêve déplace finalement le topos chrétien du châtiment divin de la femme adultère par la mort de son enfant vers un topos freudien. La culpabilité est une culpabilité inconsciente, intériorisée, qui se joue cette fois-ci donc à l'échelle de l'individu. Alors, on se souvient peut-être que à la fin de la rêverie d'Emma au galop de quatre chevaux, le rêve est interrompu, la rêverie est interrompue par la toux de Berthe. Il y aurait donc là comme une insistance sur la toux de l'enfant qui, dans un cas comme dans l'autre, est d'une certaine manière ce qui empêche la mère à s'abandonner tout à fait à l'érotisme. Dans le cas de Madame Arnoux, cette toux sera même décisive puisqu'elle empêchera définitivement Madame Arnoux de devenir autre chose qu'une vierge à l'enfant. Et cela permettra ainsi à Frédéric de ne pas risquer de mettre en péril cette première image de Madame Arnoux, cette première construction, celle de la Vierge à l'enfant. Pour conclure très brièvement, je souhaiterais simplement rappeler la destinée donc des trois enfants conçus dans le livre, hein, trois enfants conçus in libro, pour lesquels nous avons un mot de la fin. Berthe Bovary, dont on peut dire qu'elle peine à trouver une place au cours du roman, ne serait-ce que dans l'univers mental et affectif de sa mère, obtient finalement une place à la toute fin du roman, une place à l'usine. Eugène Arnoux, le fils de Madame Arnoux, dont on peut dire qu'il prend un peu trop de place, puisque en tombant malade, il fait échouer le rendez-vous amoureux. Mais finalement, à la fin, il trouve une place, ou plutôt il la garde, puisque dans l'ultime chapitre de la rencontre entre Frédéric et Madame Arnoux, Madame Arnoux annonce qu'elle est veuve et qu'elle vit désormais avec son fils. Le petit mort, l'enfant de Frédéric et de Rosanette, qui est mort sans même avoir reçu une place symbolique, et dont Frédéric pense que l'illégalité de sa naissance ne lui octroie, de toute façon ne lui aurait octroyé nulle place à venir dans la société, ce petit mort qui quitte donc notre monde pour s'évanouir dans la nuit des temps. Je vous remercie de votre attention.